fond du gouffre, des profondeurs de l'abîme, où je me noie, du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur.
Seigneur, entends-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu prenais garde aux fautes, Seigneur, Seigneur, qui pourrait tenir debout? Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. J'espère le Seigneur, j'espère vraiment, j'attends sa parole. Je compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, Israël attend le Seigneur, car c'est auprès du Seigneur qu'est la fidélité, et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Que nous soyons venus seuls, en famille ou entre amis, ou que vous suiviez le culte derrière votre écran, soyez tous les bienvenus. Que vous soyez dans la joie ou dans la détresse, ce n'est pas nous qui nous recevons, c'est Jésus qui nous accueille les uns les autres à sa table ce matin. Le psaume 130 que je viens de lire est l'un des 15 chants des montées ou des degrés. Les pèlerins le chantaient en montant à Jérusalem pour les trois grandes fêtes d'Israël, la Pâque, la Pentecôte ou les tabernacles. Mais cette montée-là part d'en bas, du fond de l'abîme. Le psalmiste fait quelque chose de rare. Il dépose sa souffrance devant Dieu, telle qu'elle. Pas de réponse toute faite, pas de cliché, pas de sparadrap posé sur la peine. La Bible, la parole de Dieu, ne masque pas la douleur derrière une sorte de pensée positive. Ici, la souffrance est exposée. Criez, priez. Attention, il ne s'agit pas de célébrer cette souffrance. Nous ne sommes pas masochistes. Masochistes. Et la douleur n'est pas une preuve de piété. Mais quand elle est là, ce psaume nous invite à la vivre devant Dieu, sans la maquiller. Seigneur, c'est vers toi que nous voulons ce matin venir te célébrer, venir avec nos cœurs qui sont dans la détresse, peut-être pour chacun, pour quelques-uns, ou pour dans la joie, que nous puissions vraiment venir comme nous sommes ce matin et être visité par toi et ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Père, pour ce temps. Merci pour toutes les personnes qui ont préparé ce culte, pour l'équipe de louanges aussi, que tu nous parles ce matin. Amen. Il y a quelques annonces. J'invite Thierry à venir et nous continuerons par la louange.
Bonjour à chacun, à chacune. Trois annonces ce matin. La première, c'est un petit rappel que nous avons les parcours Alpha à la rentrée de septembre à novembre. Ça sera tous les jeudis soirs. Après le travail, les gens sortent ou vont à la maison s'ils ont le temps. Et puis, on se retrouve au CEPOM cette année. On a un repas ensemble. On regarde une petite vidéo sur un thème, et puis il y a un temps de discussion très ouvert, très libre, où chacun exprime ce qu'il a envie d'exprimer. On vous encourage beaucoup, beaucoup à inviter. Il n'y a pas de parcours alpha si on n'invite pas. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment le cas. Il y a une petite équipe qui est là. C'est parti, ça s'organise, mais on a besoin de participants. Donc, réfléchissez, est-ce qu'il y a peut-être une personne, deux personnes, cinq personnes dans votre entourage, vos voisins, vos collègues, des gens peut-être qui manifestent déjà un intérêt pour la foi ou qui se posent des questions, qui vivent un temps difficile. C'est égal en fait. Laissez-vous inspirer, demandez peut-être à Dieu, à qui est-ce que je dois en parler. Je sais que c'est pas évident pour moi non plus. Je préfère quand même ça que d'aller dans la rue parler à un inconnu. On en parle à quelqu'un qu'on connaît et puis on les invite simplement. Voilà, il y a une petite exigence, il faut venir 12 fois, c'est pas mal. Ils ne sont pas obligés de s'engager tout de suite pour les 12 fois. Ils peuvent venir voir si ça leur plaît. Et en général, c'est tellement bien qu'ils restent. Mais voilà, c'est aussi possible de dire, si tu hésites, viens regarder comment c'est. Et puis si ça te plaît, tu continues. C'est aussi possible. Donc, à la sortie, on aura ces petits papillons. Il y a toutes les infos dessus. Et puis, il y a aussi de quoi s'inscrire. Il y a le contact de Claude, en l'occurrence. Donc, merci d'avance. On vous le rappellera encore à la rentrée, bien sûr. Mais voilà, peut-être que pendant les vacances, vous pouvez déjà... en parler à quelqu'un. Aussi vous dire que le nouveau programme est sorti. Je ne sais pas s'il est arrivé avec Nicolas. Voilà. Ça veut dire... non, je l'ai oublié. Donc, il sera là dimanche prochain ou mercredi si vous passez dans les locaux. J'irai les chercher en début de semaine. Mais voilà, le nouveau programme de l'été est là. Et puis, juste vous dire encore que sur ce programme, vous verrez, il n'y a pas tous les détails des cultes de l'été parce qu'on ne les a pas encore tous. Donc, on vous a mis les dates, on vous a mis où... le culte se passe, soit ici, soit au CEPOM. Et puis, il y a un petit lien qui sera toujours mis à jour. Vous pouvez aller voir une page web où là, vous verrez qui va prêcher, sur quel thème, etc., si vous avez besoin de ces infos-là. Mais le programme sera dispo à partir de dimanche prochain. Et puis, la dernière chose, juste vous rappeler que Philippe est encore en vacances cette semaine. Dimanche prochain, c'est Sylvain Dupertuis qui apportera la prédication. Ça va, il n'a pas fait un signe de... Mince, j'ai oublié. Et puis, merci de prier pour notre pasteur, sa femme, qu'ils aient un bon temps de repos, de renouvellement. Et puis, il sera de retour au travail le mercredi de la semaine suivante. Merci d'avance et à tout à l'heure.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Pour ce temps de louange, je vous invite à nous arrêter un moment. Peut-être que la semaine qui se termine a été épuisante et penser à la suivante n'arrange rien. Peut-être que ça a été comme d'habitude, rien à signaler, la routine. Mais dans ce que nous avons vécu personnellement, est-ce que nous avons pris ou est-ce que nous avons eu le temps de nous émerveiller de l'amour de Dieu pour nous, de reconnaître sa main qui agit, de le louer, de le remercier pour sa bonté et sa fidélité? Est-ce qu'on a eu le temps à nous? Si vous en avez envie, si vous n'avez pas le temps cette semaine, on peut le prendre ce matin. On peut prendre ce temps en louant l'Éternel et célébrant sa bonté, en proclamant qu'il est digne, roi de la terre et souverain du ciel, en lui confiant notre quotidien, en comptant sur son enseignement et en travaillant notre relation avec lui. Je loue ton nom, Éternel.
Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté.
Quelle joie tu vis en moi.
Quelle
Alléluia.
Les potes. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous as donnés et qu'ils puissent vraiment être bénis et recevoir aussi la nourriture de ta part, Seigneur. La nourriture qui est ta parole. Que tu les accompagnes, que tu les fortifies aussi dans cette fin d'année scolaire. Qu'ils puissent se rappeler les bons moments de cette année aussi. Amen. Vous êtes bénis. Je veux accueillir maintenant Robin Rive, qui est pasteur de la Fédération des Églises de Réveil. Peut-être j'ai mal dit l'intitulé, mais voilà. Et il est un passionné de l'Ancien Testament qui l'enseigne à la HET Pro, enseignement Emmaüs. Et que vraiment, les livres de l'Ancien Testament le font vibrer. Et je pense qu'il va nous donner ce qu'il a. Je prie pour toi. Tu peux venir.
Merci.
Merci Père pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, qui peut éclairer nos joies comme nos détresses, et que tu donnes la liberté à Robin de communiquer ce que tu lui as mis sur le cœur et qu'il puisse être rempli de ton Saint-Esprit. Amen. Amen.
Au moins il marche. Voilà, bonjour, ça me fait plaisir de venir vous servir ce matin. Il y a de longues années, ça doit faire 25 ans en arrière, j'étais venu prêcher. Je me rappelle, j'avais prêché sur Noé et notre rapport à la terre. Vous voyez, on n'avait pas des souvenirs comme ça. Je ne pouvais pas dire partout où je suis allé ce que j'ai prêché. Voilà. Le thème de ce message qui repose sur un texte de l'Ancien Testament, dans le Deutéronome au chapitre 10, c'est qu'au cœur de la Torah, il y a une Torah du cœur. Alors c'est vrai que si je vous parle de la loi de Dieu, à quoi est-ce que vous pourriez penser? Sans doute, assez vite à l'esprit, vous auriez les 10 commandements, ou simplement des prescriptions diverses. Ou alors l'idée qui est marquée dans le Nouveau Testament que personne ne peut obéir parfaitement à la loi, que la loi nous rend conscients de notre indignité devant Dieu et nous désespérant, elle nous pousse vers le Christ qui a, lui, offert sa vie à la croix pour nous sauver de nos péchés. Donc si on parle de la loi, on pense sous cet angle-là et tout ça est vrai, mais ce n'est qu'un aspect de la loi. Parce que le terme hébreu, qui est souvent traduit « loi », c'est « Torah ». Et « Torah » ne signifie pas vraiment « loi », mais vient d'un verbe qui veut dire « instruire »,« enseigner ». Donc la Torah, c'est l'instruction. Et chez les Juifs, et on le fait aussi parfois chez les chrétiens, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Chez les Juifs, on regroupe les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, sous le nom de Torah. Chez les chrétiens, on parle de Pentateuque, quand on joue au grec. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça veut dire que la Torah, elle comprend l'annonce de la création, le récit de la création, le récit de la chute de l'être humain, le plan de rédemption de Dieu qui commence avec Abraham, avec toutes les aventures des patriarches, l'asservissement en Égypte, la libération hors d'Égypte, la traversée de la mer des joncs, l'alliance au Sinaï, les diverses désobéissances d'Israël, l'errance dans le désert jusqu'à ce qu'on se trouve dans les plaines de Moab, sur le point d'entrée en terre promise. Et tout cela est Torah. Tout cela est Torah. Les histoires que nous lisons nous instruisent et nous sont tout aussi utiles que tu ne commettras pas l'adultère ou tu ne convoiteras pas. Ça fait partie du Pâques. Et dans le Nouveau Testament, avec la révélation du Christ, Jésus et les apôtres n'ont pas rejeté la Torah, bien au contraire, ils ont prétendu, et ils ont eu raison, je le dis en tant que chrétien, ils ont prétendu que leur message, ainsi que l'œuvre accomplie par le Christ, confirme la Torah. La nouvelle alliance est un développement du plan de Dieu qui était déjà annoncé dans la Torah. En quelque sorte, la Torah est rendue manifeste. Le Nouveau Testament parle de l'ancienne alliance comme contenant l'ombre des choses à venir que la lumière du Christ rend manifeste. Mais ça veut dire que s'il y a une ombre, c'est qu'il y a déjà une trace. Alors bien sûr, les rituels, les sacrifices, tout ça a été dépassé par le sacrifice final qui met fin à tous les sacrifices, celui du Christ. Donc on peut plonger les regards, avec l'éclairage de la Nouvelle Alliance, on peut plonger les regards dans la Torah et y trouver des vérités de l'Évangile qui sont déjà présentes. Alors elles sont parfois discrètes, mais on peut les trouver. Et c'est à cela que je vous invite ce matin, parce que la Torah, c'est vrai, soyons clairs, quand on lit ses lois, parfois elle est effrayante, Et ça, c'est vrai qu'on n'y voit que des exigences, des menaces, et puis on a un peu peur, on se dit « oulala ». Entre nous, si vous lisez « Le serment sur la montagne », c'est encore plus terrifiant, hein, si vous êtes cohérent. Donc Jésus dit que ça va juste dans les pensées, mais la Torah le dit aussi, on va le voir. C'est Luther qui était terrifié par le serment sur la montagne. Bon, vu sa biographie, je comprends. Pardon. En tout cas, nous allons lire aujourd'hui un court passage dans le Deutéronome où nous allons découvrir justement que dans ce cinquième livre de la Torah, eh bien, on trouve une Torah du cœur. Au cœur, à l'aboutissement des cinq livres de Moïse, eh bien, on trouve cette révélation d'une Torah du cœur. Et là, on peut afficher le texte, c'est version Colombe, légèrement révisée. Voilà ce qui est ordonné. Vous circoncirez... Ah non, c'est... Non, je peux revenir en arrière, je suis désolé. Je vous le lis, j'ai cru que j'avais lu le texte, mais je vous le lis alors. Et puis on va le relire pendant la prédication. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez pas votre nuque. Car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas considération de personne et qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Vous aimerez l'immigrant car vous avez été immigrant dans le pays d'Égypte. Que nous dit ce texte ? Bien, tout d'abord, et là on peut passer à la prochaine image, c'est que nous devons changer intérieurement. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez pas votre nuque. Et ces deux exigences, circoncire le cœur et dire la nuque, s'appellent, s'expliquent mutuellement. La première image est quand même étrange, et le texte littéral est encore plus étrange puisqu'il est écrit « Vous circoncirez le prépuce de votre cœur ». Alors là, question courte biologie, on est un peu à côté. Hein. La circoncision, qu'est-ce que c'était ? C'était le signe donné à Abraham par lequel la famille d'Abraham et ses descendants se différenciaient des autres nations. C'est un signe marqueur à terme de qui était juif. Hein. Et ça montrait que cette famille, puis ce peuple, était lié à Dieu par une alliance. Une alliance, voilà, de redevabilité, de protection de la part de Dieu. Donc, alliance réciproque de la part du Dieu roi avec ses serviteurs. Et donc ici, la Torah, elle mélange l'image physique de la circoncision, prenant même des termes physiques dans l'original, mais elle parle d'une réalité intérieure, puisqu'il est question du cœur. La seconde exigence, ne pas raidir sa nuque, c'est une manière de dire de ne pas résister, de se soumettre, d'être disposé à Dieu, de pas... quand on raidit la nuque, c'est quand on refuse de baisser la tête. Hein. Donc on est dans, voilà, il ne faut pas être dans une position de bravache face à Dieu, mais être dans une position où il est Dieu, nous sommes des créatures et nous le servons. Et donc les deux s'expliquent. La circoncision du cœur, c'est entrer dans un rapport de service, d'engagement à la suite de Dieu. L'obéissance à Dieu, nous dit ce texte, n'est en quelque sorte possible que si nous changeons intérieurement. Et de manière indirecte, elle souligne aussi que par nous-mêmes, nous sommes incapables de plaire à Dieu, de le servir, qu'il faut un changement profond en nous pour servir de Dieu, pour que nos motivations, que nos désirs soient alignés sur les désirs de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin même du livre de Deutéronome, au chapitre 30, on nous trouve une explication de comment va s'opérer, pas une opération physique, hein, mais comment va s'opérer cette circoncision de cœur. Voilà ce qu'il est dit. Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. Là, on a une révélation. Au chapitre 10, c'est circoncisez votre cœur, Deutéronome 30 dit, c'est le Seigneur lui-même qui circoncira votre cœur, que le miracle vient de lui, c'est Dieu qui change le cœur du croyant. Par conséquent, quand la Torah nous ordonne de circoncire notre cœur, il s'agit de laisser le Seigneur, lui, nous changer, et reconnaître lui seul peut nous changer. Nos efforts, par eux-mêmes, ne peuvent pas nous changer. Il faut un miracle opéré par Dieu. Et c'est là que le Nouveau Testament nous apporte un éclairage supplémentaire sur cette thème, cette question de la circoncision du cœur. C'est sous la plume de Paul, au début de l'Épître aux Romains, où il écrit, au tout début, quand je lisais pas suffisamment bien ma Bible, je croyais qu'il innovait, qu'il avait trouvé une image originale. Mais Paul n'est pas original, il montre ce que la Torah exprimait déjà, peut-être d'une manière un peu discrète, deux versets. Mais voilà ce qu'il dit. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Et voilà l'innovation de la révélation du Nouveau Testament, accomplie par l'Esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ce que souligne Paul, c'est que la circoncision physique, qui est la marque claire du juif, distinctive du juif, que cette circoncision n'est pas essentielle. Parce qu'il faut la circoncision intérieure. Il faut que quelque chose se passe chez le juif ou le non-juif. Et cette circoncision est accomplie par le Saint-Esprit. Je vous rappelle que le Saint-Esprit est Dieu. Donc voyez, le Seigneur circoncira lui-même votre cœur dans le Deutéronome. Paul, il dit, celui qui opère cette circoncision du cœur, ce changement, c'est le Saint-Esprit. Et les morceaux se mettent ensemble tout à coup par la révélation du Christ. Paul n'invente rien et il appelle aussi les Israélites circoncis physiquement à être circoncis intérieurement, ce que précisément fait la Torah. Un juif sous Moïse est appelé à la transformation intérieure et à ne pas s'arrêter à une appartenance ethnique ou biologique. Ça n'a jamais été. Les enfants de Dieu, dans toutes les alliances, sont des personnes qui sont nées d'en haut. Parce que c'est ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et c'est vrai que l'œuvre de l'Esprit inaugural qui nous transforme, qui nous rend capables de croire, etc. On l'appelle l'engendrement d'en haut, la naissance d'en haut, la naissance de Dieu. Lisez dans l'Évangile de Jean, certains aussi traduisent, je pense à tort, naître de nouveau. De nouveau, l'adverbe n'est jamais utilisé dans le sens de nouveau, sauf dans le passage avec Nicodème. Et encore, je pense que Jésus veut dire d'en haut. Parce que c'est Dieu qui met au monde, en quelque sorte. Vous ne pouvez pas vous naître de nouveau. C'est difficile de se pousser soi-même en dehors du ventre de sa mère, en quelque sorte. Et donc, on ne se naît pas de nouveau. Ça, c'est la partie miraculeuse. On se convertit, ça c'est vrai, on se tourne vers Dieu. Mais n'empêche, la transformation du cœur, c'est le Seigneur qui l'opère. Et je crois qu'il faut le reconnaître. La loi ne peut pas changer l'être humain, la Torah écrite ne peut pas changer l'être humain, elle n'a jamais eu ce but d'ailleurs, et il faut donc un miracle qui nous libère de notre tendance à la haine, à la révolte. Mais ce n'est pas une invention du Nouveau Testament, la Torah elle-même contient cet enseignement fondamental. Et si vous notez dans le deuxième texte du Deutéronome, le Seigneur circoncira ton cœur, non, toujours avant, mais ce n'est pas grave. C'est bien, comme ça on dialogue, c'est parfait, on est vivant. Vous noterez que le deuxième texte, donc la Torah, parle en conséquence, le Seigneur circoncira ton cœur et tu aimeras le Seigneur. L'amour est le résultat de cette circoncision du cœur. Donc être soumis au Seigneur, ce n'est pas être soumis à un maître rude, sévère, avec des exigences impossibles, dans une forme d'esclavage terrible, comme on a pu le voir dans certains temps, certains lieux où des gens professent une religion oppressante. On connaît des systèmes religieux qui se sont aussi parés, malheureusement, du nom de l'Évangile, sans l'être vraiment, qui ont enchaîné les gens dans des devoirs, des obligations, des menaces, parce que la peur fait agir les gens. Je connaissais un pasteur qui disait « Moi, je fais peur aux gens, comme ça, je les tiens bien. » Je ne suis pas sûr que c'est l'exemple que j'aurais aimé suivre. Voilà, mais ça existe dans nos milieux aussi. Non, l'Esprit en nous, qui est un don de Dieu, nous donne l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Ce que d'ailleurs, Paul va dire plus loin dans la lettre aux Romains, au chapitre 5, l'amour de Dieu, alors c'est soit l'amour qui vient de Dieu ou l'amour pour Dieu, les deux sont possibles, est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors la question que je laisse comme ça flotter dans l'air, est-ce que nous avons vécu cette naissance d'en haut? Est-ce que nous avons vécu cette circoncision du cœur? Est-ce que nous avons vécu d'une certaine manière, ou est-ce que nous vivons ce changement intérieur? Je ne parle pas de quelque chose de parfait, je parle des prémices, des bourgeons, des germes d'une vie nouvelle. Si ce n'est pas le cas, Jésus se présente à toi pour que tu lui donnes ta vie, pour que tu lui livres ton existence. Et rien que le désir de lui livrer ton existence fait partie de l'œuvre de l'Esprit. Donc si tu dis, oh, je voudrais lui donner ma vie, mais je ne sais pas si je me reçois. Rien que le désir est déjà un cadeau du Saint-Esprit. Le Seigneur a offert sa vie à la croix pour que tu puisses être pardonné de tes péchés et pour qu'il puisse t'habiter. Alors est-ce que tu reçois ce pardon? Petite parenthèse, petit appel. Deuxième point, voilà, on y arrive. Dieu doit être notre référence suprême. Car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Alors là, c'est massif, hein, on a, là, c'est une armoire normande, hein, c'est pas un boudoir. Et vous notez le car, le Seigneur, hein, circoncisez votre cœur, etc. Car le Seigneur est un Dieu, est Dieu. Nous devons changer intérieurement et nous soumettre à Dieu parce que lui seul est Dieu. Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, c'est une manière en hébreu de dire qu'il est celui qui est Dieu plus que toute autre idée de Dieu. Faites-vous une idée de Dieu, il est plus grand que ça. Voilà, par exemple. Donc Dieu n'est pas simplement un Dieu plus fort que les autres. Il est le seul à pouvoir être appelé Dieu d'une manière absolue. Voilà. La Bible ne nie pas l'existence, hein, d'êtres spirituels qu'elle nomme parfois comme les dieux. Mais le Seigneur leur est infiniment supérieur. Lui seul n'a pas de commencement. Lui seul a créé le monde, dont les dieux ne sont que des créatures. Lui seul sait tout, lui seul peut tout, lui seul est partout. C'est très important. Et puis, il ne fait pas de favoritisme, il n'accepte pas de pot de vin. Ça veut dire qu'on ne peut pas manipuler Dieu, qu'on ne peut pas manœuvrer pour contourner le fait que lui a toute autorité. Il faut toujours nous le rappeler. Le Dieu unique n'est pas un Dieu qu'on choisit parmi les autres dans le grand supermarché des religions ou des spiritualités. Il est le seul Dieu dans le sens absolu. On ne peut pas négocier pour ne prendre de lui que ce qui nous plaît et mettre de côté ce qui nous dérange. Dieu est Dieu. Soit on l'accepte, soit on le rejette. Il n'y a pas de voie moyenne. Alors, tout de suite, je vous vois venir, on peut se sentir écrasé par cette image d'un Dieu comme ça, unique, tout-puissant. Et même la Torah va un peu dans ce sens, puisqu'elle dit qu'il est le Dieu redoutable, voire redouté. Mais si on comprend tout sous l'angle de l'amour, quand on aime Dieu, on n'est pas menacé, on le respecte infiniment. Mais comme on l'aime, on aime ce qu'il aime, mais on le révère. J'avais entendu que dans un groupe de jeunes, quelqu'un a dit « Ah, Dieu est mon pote !» Alors, c'est bien les potes pour les enfants, mais Dieu n'est pas mon pote. Et Jésus n'est pas mon petit copain. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Et le degré d'intimité extraordinaire qu'il m'offre n'empêche pas qu'il y ait cette distance entre moi, créature, et Dieu, le Créateur. Au contraire, je peux être très audacieux dans la foi, m'approcher de lui dans toute la simplicité, parce que Christ nous a ouvert le chemin, mais Dieu reste Dieu. Donc une des définitions bibliques de la piété, c'est de vivre toute son existence en étant conscient du Seigneur, de son regard. Pas pour en être menacé, mais parce qu'on vit avec lui, pour lui, par lui. Et donc, est-ce que Dieu, et je parle d'au-delà du dimanche matin où on se fait du bien, est-ce que Dieu, dans ton quotidien, dans ton lundi, ton mardi, ton mercredi, jusqu'à vendredi soir où tu fais la fête, est-ce que Dieu est toujours dans ton champ de vision? Est-ce que Dieu est Dieu pour toi? Ou est-ce qu'il n'est qu'un Dieu parmi d'autres, peut-être un peu plus fort, peut-être un peu mieux? Ah, moi je prends Jésus parce qu'il m'a guéri, parce qu'il m'a arrangé le coup financièrement, etc. Des beaux témoignages comme ça, mais Non, c'est juste, hein, le Seigneur intervient dans notre vie, mais nous ne croyons pas en Dieu parce qu'il fait juste un peu mieux que Baal. Voilà. Nous croyons en Dieu parce qu'il est Dieu. Et ça, c'est important. Il y a des chants qui disent « Ah, Dieu, tu es grand, tu es fort. » Des fois, je vais dire « t'es pas grand, t'es omniprésent. T'es pas juste fort, t'es tout puissant. » Je suis pas contre ces quantiques. Mais il faut bien que dans notre tête, quand on dit Dieu est fort, il n'est pas juste un peu plus fort que... Il est celui qui a toute puissance. Mais la description du Seigneur ne s'arrête pas là dans notre texte, et c'est là qu'on voit quelque chose qui annonce vraiment l'Évangile. Je dirais toute la j'allais dire la philosophie, j'aime pas le terme, mais tout ce que l'Esprit veut nous dire par les Écritures, c'est qu'elle poursuit la Torah de manière étonnante. Après un tableau impressionnant du Dieu suprême, effrayant, incorruptible, le Seigneur se présente comme celui qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Ah, la veuve et l'orphelin, deux personnes très vulnérables en Israël, dans une société agraire où il y avait peut-être même des guerres, ne pas avoir un mari, ne pas avoir un père pour défendre ou pour gagner le pain, c'était être en danger de misère. Et donc, le risque, ce serait de se vendre comme esclave pour pouvoir manger, voire se prostituer. Et la Torah, à plein d'endroits, appelle à faire attention à la veuve, à l'orphelin, à les soigner, à les nourrir, à les protéger dans la société, parce que c'est des personnes particulièrement en danger de marginalisation. L'immigré est le troisième qui est souvent cité avec eux, c'est l'étranger qui n'est pas juste là en voyage, mais qui est là de manière plus permanente. Lui n'avait aucun droit foncier, il ne pouvait pas devenir propriétaire, donc il ne pouvait qu'être au service d'autres personnes, c'était assez compliqué. Là aussi un risque de marginalisation, sans oublier que les Israélites pouvaient aussi être xénophobes, parce que c'est un mal qui n'est pas circonscrit à seulement une partie de l'humanité. Et donc la Torah se bat aussi contre cette haine de l'étranger ou la tentation d'exploiter celui qui n'a pas les ressources ni politiques ni financières pour s'en sortir. Le Seigneur est redoutable, ça c'est le message de l'Évangile. Le Seigneur est redoutable en ce qui vient au secours des personnes en détresse. Dieu a manifesté sa gloire en s'abaissant à devenir un être humain et jusqu'à la mort sur la croix, jusqu'au sacrifice sur la croix pour nous sauver. Dieu est grand en ce qu'il s'est donné sur la croix. Jésus dit qu'il glorifie le Père la veille de sa crucifixion. Il va glorifier le Père par la croix. Cette vérité traverse toute la Bible. C'est par les petites choses que le monde méprise. C'est par les gens improbables qu'il étend son règne et qu'il se manifeste. Alors sinon, on revient à la nécessité de changer intérieurement par une circoncision de cœur. Il ne s'agit pas simplement de respecter Dieu, mais aussi de changer dans notre attitude envers les gens, et en particulier envers les personnes marginalisées. Alors quand je dis personnes marginalisées, il y a les marginalisées par la société, mais il y a toutes les personnes que nous marginalisons dans nos jugements. Jugement de classe, jugement de... Voilà, les regards hautains ou méprisants ou agressifs, parce que les gens ne sont pas comme nous, ils ne croient pas comme nous, ils ne se comportent pas comme nous. Donc on a un regard qui les pousse en dehors d'humanité un peu. Et c'est là que la Torah et l'Évangile nous appellent à ne pas les marginaliser. Si Dieu est juste, s'il aime... S'il nourrit, nous devons l'imiter. Nous sommes les imitateurs de Dieu. Alors, est-ce que dans ton cœur, tu gardes encore des préjugés contre certaines personnes, un orgueil qui t'amène à mépriser des gens? Qu'est-ce qui doit encore changer en toi sur ce plan? Ça, c'est... On va aller à contre-courant. Est-ce que tu as des rêves de grandeur? Est-ce que ces rêves de grandeur ne devraient pas être remplacés par des rêves de petitesse? Où la quête de service prime sur la quête de puissance et de notoriété. Je pense que les grandes choses se passent dans des petits chemins, dans la discrétion, sans doute, la plupart du temps. Peut-être qu'il y a des aspects de notre service que personne ne remarquera, mais qui comptent devant Dieu, parce que c'est Dieu qui nous les a demandés. Enfin, J'espère que vous êtes encore en vie. Réveillés, j'espère, je vois. En tout cas, moins que vous dormiez les yeux ouverts. Troisième point. Eh oui, c'est un message en trois points. Je ne vais pas m'en excuser. Rappelons-nous d'où nous avons été libérés. Vous aimerez l'immigrant car vous avez été immigrant dans le pays d'Égypte. La Torah ajoute ici une mention concernant l'immigrant, peut-être, parce que la xénophobie est le danger le plus probant, le plus important à ce moment-là. En tout cas, elle rappelle aux Israélites ce dont ils ont été libérés eux-mêmes et qui doit conditionner leur attitude. Ils avaient vécu 4 siècles en Égypte en tant qu'étrangers et la situation sympathique au début du temps de Joseph s'était progressivement dégradée avec l'émergence de pharaons qui se méfiaient d'eux, par xénophobie. Vous avez peur que ces Israélites qui étaient à la frontière est du pays deviennent les alliés d'envahisseurs sémites. Donc ils les ont accablés de travaux pour les empêcher d'avoir l'énergie de se soulever. Ils ont commencé aussi à essayer de tuer les petits Hébreux pour empêcher ces Israélites de prospérer. Et le Seigneur qui aime les immigrants est venu libérer les immigrants israélites de leurs oppresseurs. Ces étrangers résidant en Égypte étaient des immigrants. Et le Seigneur est venu les sauver. Donc il serait aberrant que les Israélites, au bénéfice de cette libération, oppriment eux-mêmes les étrangers en séjour chez eux et qu'ils n'en prennent pas soin. De même, nous aussi, si nous sommes devenus chrétiens, si nous avons été pardonnés de nos péchés, libérés de la condamnation et de l'emprise du mal, nous ne pouvons pas mépriser et maltraiter les personnes qui sont encore prisonnières des ténèbres. Donc, je prie pour toute une série de personnes qui ne sont pas au Seigneur. Je prie pour leur conversion. Et un de mes arguments devant le Seigneur, c'est « Seigneur, tu sais qui j'étais avant que tu me sauves. Tu sais quel incroyant, quel mécréant j'étais, quel orgueilleux j'étais. Et puis tu m'as sauvé. Pourquoi tu ne les sauverais pas eux aussi? Pourquoi tu ne changerais pas leur cœur aussi? Moi, je ne mérite pas plus qu'eux. Moi, je ne prie pas du haut de je ne sais pas quel titre stupide dont je pourrais me morner. Je veux dire, si je pense aux personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, elles sont juste comme moi j'ai été un certain nombre d'années de ma vie. Je ne dois pas les prendre de haut. C'est pas « venez monter vers nous », c'est « nous sommes comme vous et nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, saisissez cette grâce. Soyez réconciliés », disait Paul, « soyez réconciliés parce que Dieu nous a réconciliés. » Donc si nous confessons que Dieu nous fait grâce, alors que nous étions les esclaves du mal, nous n'avons pas le droit d'être xénophobes. Et puis là, on peut imaginer toutes sortes d'étrangers, c'est pas juste les non-Suisses, ça peut être certains Suisses aussi par rapport à nous, je crois. Les Suisses allemands, ou les Gessiens, ou les Italiens, tout ce qu'on veut. C'est pas toujours lié à des. Justement, il faut sortir de ces images. Et moi, il y a des gens, je viens des familles bourgeoises, les petites gens, il y a un regard très, très, très hautain dans ma famille, des jugements de classe. Les fans de Johnny Hallyday dans ma famille sont mal vus. Vous voyez ? Donc, on a chacun nos étrangers, qu'on doit aimer. Dieu bénisse les fans de Johnny Hallyday. C'est pas ma cam. J'ai d'autres choses qui vous choqueraient au niveau de ce dont je suis fan. Comme ça, on peut pas. En tout cas, l'amour envers Dieu est indissociable de l'amour envers le prochain. On peut pas avoir l'un sans l'autre. Jean le dit, tu peux pas dire que tu aimes ton frère, tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Il y a quelque chose. Mais cette prise de conscience de la grâce n'est réellement possible que si notre cœur a été circoncis, que si le Saint-Esprit nous a fait vivre à une vie nouvelle, nous a ouvert les yeux et nous a mis en quelque sorte en harmonie, en connexion avec comment Dieu voit mon prochain. Je finis. La Torah du cœur enseigne que nous devons impérativement changer intérieurement. Changement opéré par le Saint-Esprit le jour où nous mettons notre foi en Jésus comme notre Seigneur. La Torah du cœur nous apprend à faire de Dieu notre référence suprême, absolue, non seulement comme le seul Dieu, tout-puissant et redoutable, mais aussi comme le Dieu qui prend soin des personnes en situation de fragilité, dont nous sommes chacun, je pense, sur certains angles. personne qui n'a pas conscience dans sa vie d'une zone de fragilité, d'un besoin de rédemption, d'ornières, de blessures qui sont là, qui demanderont peut-être toute une vie, et voire pas, même au-delà, pour être guéris. La Torah du cœur nous exhorte à nous rappeler de quoi nous avons nous-mêmes été sauvés, libérés, pardonnés. Alors, à partir de là, comment juger et maltraiter notre prochain? Comment ne pas chercher son bien? Amen. Seigneur, merci pour ta Torah, merci pour ta parole, merci pour ta révélation qui, partant de ces 5 premiers livres de la Bible, aboutit avec la révélation de Jésus, avec les paroles des évangiles, avec les épîtres, avec l'Apocalypse. Tout ça, Seigneur, nous voyons que cela manifeste ton plan, cela nous rappelle qui tu es. Ma prière, c'est que, oui, tu nous ramènes toujours à l'essentiel. Merci parce que c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui changes notre existence, c'est toi qui changes notre cœur. Et nous le confessons d'une manière ou d'une autre. Nous sommes permanemment en besoin de réforme intérieure. Alors aide-nous à avoir ton regard. Toi qui nous as sauvés, nous qui étions errants, comme des immigrants, dans une terre qui nous semblait bien étrangère. Et tu nous as accueillis dans ton royaume. Nous sommes désormais citoyens, nous sommes sujets du royaume de Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Et Seigneur, en attendant que cette nouvelle Jérusalem descende sur la terre, nous voulons, Seigneur, être tes témoins. Témoins de ta grâce, prophètes, prédicateurs de l'évangile du salut. Amen.
Amen.
Passer dans un temps de Sainte-Cène. En fait, j'aimerais relire le psaume 130, celui qui a introduit notre culte. Du fond de la détresse, je crie vers toi, Seigneur. Écoute ma voix. Sois attentif quand je te supplie. Si tu voulais épier nos fautes, Seigneur, qui pourrait survivre? Le psaume ne s'arrête pas à la question des fautes qui nous pèsent. Il ouvre sur la bonne nouvelle du pardon. Au verset 4, il est dit le pardon. Mais le pardon se trouve auprès de toi. C'est pourquoi on reconnaît ton autorité. Et comme nous a rappelé Robin, on a la circoncision du cœur, le pardon de nos péchés. Et poursuivre avec l'épître aux Romains. Enfin, où nous étions encore sans force. Le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable, dès qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Et le psaume conclut ainsi : de tout mon être, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va me dire. Je compte sur le Seigneur plus qu'un veilleur n'attend le matin. Oui, plus qu'un veilleur n'attend le matin. Si vous reconnaissez l'amour de Dieu pour vous et le sacrifice de Jésus pour vos péchés, vous êtes invité à vous approcher de cette table qui est ouverte pour vous, qui a été préparée pour vous. Si ce repas ne correspond pas à votre cheminement intérieur, sentez-vous libre de ne pas y prendre part. Seigneur, tu nous as, c'est par ta vie où tu as été obéissant jusqu'à la mort sur la croix que nous avons une vie en retour, que nous pouvons te recevoir, que nous pouvons faire cette alliance avec toi. Merci pour ce pain et pour ce vin qui est signe de cette alliance pour nous, Seigneur. Qu'on puisse vraiment le prendre avec reconnaissance de cœur. Merci, Père, ton Fils. Amen. J'invite les 4 personnes que j'ai désignées pour le partage de la Sainte Cène à venir maintenant.
Seigneur, tu as donné ton corps pour nous et tu as versé ton sang pour nos péchés. Et nous voulons proclamer que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quelle joie, Seigneur, de ce que tu as fait, le chemin que nous n'aurions pas pu faire parce que nous sommes faibles. Mais toi, dans ta puissance, tu t'es livré à la mort pour nous. Amen.
Amen.
Pour ceux qui veulent prendre la coupe, Jean-Christophe est là pour vous faire signe et il vous donnera. pour le temps d'offrande. Nous voulons qu'il y ait un temps libre et qui fait vivre la communauté, l'offrande que nous récoltons. Nous voulons choper un chant qui dit « Ta parole et non pas mes pieds ». Je ne sais pas si vous ne le connaissez pas, écoutez-le et soyez nourris par ce chant. J'invite les trois personnes à récolter l'offrande. Je vous remercie. Seigneur, que tu guides les personnes qui distribueront cet argent, que tu leur donnes la sagesse de bien le faire et peut-être de changer des priorités si le Saint-Esprit leur donne ça. Que ta parole soit vraiment cette lampe à nos pieds, qu'elle éclaire nos chemins pas à pas. Et qu'elle nous rafraîchisse, qu'elle nous donne un élan jour après jour. Amen. Je vous invite, simplement, on revient en cette fin de culte pour une bénédiction, donc je vous invite à vous lever. Vous le pouvez. Nous allons lire dans Deutéronome 6. Écoute Israël, écoute, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu seras en route, en voyage, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Soyez chacun fortifié dans cette semaine qui s'ouvre devant chacun d'entre nous. Amen.
Amen.
Vous êtes le bienvenu à un café qui suit le
culte.